6h03, jeudi 10 octobre. Bonne journée et bienvenue au 88.5 FM. D'excellentes prévisions météo pour les prochains jours, ce qui inclut la fin de semaine. Alors aujourd'hui, c'est du soleil, quelques nuages, 16 degrés. Demain, beaucoup de soleil, 17 degrés. Samedi, on prévoit du temps assez ensoleillé, quelques nuages et peut-être de la pluie, je dis bien peut-être, en soirée et durant la nuit de samedi à dimanche. Dimanche, plus frais, 13 degrés, risque d'averse également. Et pour la fête de l'Action de grâce, le congé lundi, on prévoit du soleil, quelques nuages, 14 degrés. Un mot sur l'histoire des pistolets à impulsion électrique. Quand même assez étonnant comme explication de la ville en disant, ben là, on a d'autres priorités, il faut s'occuper du rapport sur la discrimination. C'est quoi le lien entre l'acquisition de ces pistolets, ces taser guns, et la discrimination? Puis là, il faut parfaire la formation des policiers pour amener, en fait, pour éviter l'escalade. Oui, mais là, on parle de policiers qui sont déjà formés pour l'utilisation du taser gun. Puis est-ce que ça serait pas logique d'avoir cette arme intermédiaire dans le véhicule, me semble? Puis là, on va attendre quoi? Que quelqu'un meure parce qu'il n'y aura pas eu cette arme-là à la disposition des policiers? On va faire une autre enquête du coroner, puis on va arriver à peu près même conclusion. Je dis pas que ça fait l'unanimité, le taser gun. Mais entre vous et moi, c'est quand même mieux qu'une balle quand t'as pas le choix. Et c'est sûr que c'est mieux de pas l'utiliser puis d'être capable de faire baisser la pression et de maîtriser autrement un individu qui est en crise. Mais il me semble, en tout cas, que le rapport du coroner était clair. La volonté me semblait assez précise de la ville. Et là, on a donc changé d'idée. Je veux revenir aussi sur les manifestations. Alors, on l'a vu, on parlait de ça avec Marie-Laurence, pas mal plus tranquille hier, pas de perturbation. Et ce qui me frappe dans tout ça, là, ce sont les réactions extrêmes. De cibler la population, bref, d'écœurer les gens, c'est jamais payant pour une cause. Et c'est pas de diminuer la gravité du problème, c'est pas de dire qu'il n'y a pas une urgence climatique. Je regardais ce matin les propos de Mayran, qui est un environnementaliste crédible, qui n'est pas quelqu'un qui laisse passer les affaires, qui dit on peut revendiquer, mais si on se met à frapper trop souvent ou à cibler trop souvent les citoyens, ça va peut-être provoquer l'effet contraire. Et quand j'ai entendu hier Gabriel Nadeau-Dubois, Québec solidaire, assez condescendant, en prenant l'image, là il parlait du ministre Charrette, « Quand le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt. » Alors, on est tous idiots, semble-t-il, d'avoir trouvé que ça n'avait pas de bon sens, cette perturbation au pont Jacques-Cartier, puis cette perturbation en plein centre-ville de Montréal. On comprend que ça vient de lui, c'est un spécialiste de la question, mais quand même, quand même. Et je pense qu'on peut discuter de ça, et je suis d'accord sur le fond que le gouvernement Legault est pas très crédible en matière d'environnement. C'est là, c'est rendu qu'un troisième lien, c'est un geste vert. C'est rendu que Uber, c'est un geste vert. Là, faudrait pas prendre le monde pour des valises non plus, là. Et ça a jamais été une priorité de la CAQ durant la campagne électorale. Il avait nommé une ministre très faible à l'environnement, qui a tellement gaffé qu'ils l'ont tassé. Et je pense pas que ce soit encore aujourd'hui, à part dans le discours, on sent pas, là, que c'est une très grande préoccupation. Alors, je voulais juste peut-être faire le point là-dessus. Et il y aura d'autres activités à venir dans les prochains jours. Parlons maintenant de la campagne électorale. Ce matin, il y a un sondage. Et c'est le sondage après débat qui confirme ce qui est, disons, palpable dans l'air. Et notre ami Bernard Drinville nous en a parlé, la remontée du Bloc québécois. Alors, on sait que le Bloc était considéré comme mourant il n'y a pas si longtemps. Et les cartes en politique, ça se brasse donc rapidement. Et ce que ça montre, le sondage, c'est que la bataille au Québec se fait à deux, entre le Bloc québécois et le Parti libéral de Justin Trudeau. Donc, selon ce sondage léger, la presse canadienne, les libéraux, 31% des intentions de vote, le Bloc est à 29%, les conservateurs sont à 16%, très loin, et après ça, vous retrouvez le parti NPD, le parti vert. À l'échelle canadienne, c'est pratiquement du nez à nez. Ce qui veut donc dire que On est en route vers un gouvernement minoritaire, conservateur, libéral, trop tôt pour tirer une conclusion. Mais ça pourrait donc donner au Bloc québécois, compte tenu qu'il est nettement en avance chez les francophones, et le vote francophone détermine de tout, c'est-à-dire qu'on est à 37%, et ça pourrait vouloir dire probablement peut-être plus de 25 députés pour le Bloc québécois venant de tous les coins du Québec. Et ça pourrait peut-être vouloir dire aussi la balance du pouvoir avec un gouvernement minoritaire. Donc, c'est sûr que jusqu'à maintenant, on sent que les conservateurs ont glissé au Québec. Maxime Bernier, ça lève pas vraiment. C'est toujours à 3-4% des intentions de vote. Alors voilà pour ce sondage. Et ce matin, il y a une pub dans le National Post qui est payée par un groupe, c'est pas un parti politique, mais c'est une pub électorale. Et quand je dis une pub, là, c'est la page au complet. Et je vais traduire, c'est le temps d'avoir un nouveau premier ministre avec une photo. Évidemment qu'il n'aide pas trop Justin Trudeau, là. Il a l'air un peu naïf, innocent. Et la pub le traite de hypocrite ultime. Alors, violation de l'éthique, congédiement de femmes fortes, c'est un faux militant vert, promesse brisée, désastre diplomatique. Et c'est donc payé par le Canada Growth Council Inc. Et là, on s'est dit, mais c'est qui ça, le Canada Growth Council Inc.? C'est un groupe, donc, qui depuis le mois de juillet dépense de la pub électorale contre les candidats du Parti libéral. Déjà au mois de juillet, il avait dépensé beaucoup d'argent en une semaine ou deux dans certaines circonscriptions, en Saskatchewan. C'est un groupe essentiellement, donc, de gens qui sont pour le pétrole, donc le lobby du pétrole est derrière ça, et aussi les gens qui sont davantage pour la libre entreprise, baisse de taxes et donc moins d'impôts sur les compagnies. Mais je vous dis là, c'est une page au grand complet. Parlons maintenant des chauffeurs de taxi. On a reçu un communiqué qui nous dit que finalement, aujourd'hui, de 9h à 17h, c'est l'Association des taxis des régions du Québec qui dit qu'il y aura manifestation, en fait, des manifestations. On invite les chauffeurs de toutes les régions. Et évidemment, c'est pour protester contre le projet de loi qui est débattu à Québec. Alors, les chauffeurs qui veulent avoir une compensation plus importante, un encadrement plus concurrentiel face aux autres joueurs du transport et des marchés protégés permettant d'assurer la viabilité de l'industrie québécoise du taxi. Alors, on sait que, le ministre Bonnardel a dit qu'il n'y aura pas un sou de plus. Il y a une enveloppe plus importante pour des cas d'exception. Mais il faut quand même rappeler un fait, là. C'est-à-dire que c'est l'État québécois qui a créé ce système de permis. Il y a eu toute une spéculation financée par des institutions, entre autres Desjardins. Et ça a donc donné lieu à une espèce de gonflement de la valeur des permis. Fait que je comprends que des gens qui ont payé ça 200 000, là, on va leur dire, ben, on va vous rembourser le montant que vous avez payé. Mais quelqu'un qui a payé ça 50 000 à l'époque, puis qui se dit, ben, moi, je pensais que c'était un peu pour être un placement pour ma retraite un jour, puis là, ça vaut plus, ça vaut même pas ça. Il n'y a plus personne qui va acheter ça. De toute façon, ça disparaît. Fait qu'on va me remettre mon 50 000. Peut comprendre la frustration. Et l'autre chose, je pense que d'établir un certain plafond, comme on le fait dans beaucoup de villes, et je donne toujours l'exemple de New York, parce que ça amène de meilleures conditions de travail pour les chauffeurs, peu importe que ce soit des chauffeurs dans le taxi conventionnel ou dans le cas de Uber. On va aller retrouver Marc, ça roule comment, mon ami? Parfait. On va parler de santé maintenant, parce que hier, on a déposé donc le projet de loi 43 sur les infirmières praticiennes spécialisées, les IPS. Et là, elles vont pouvoir faire plus de choses et être plus autonomes encore. Et prenons un exemple. Les infirmières, donc praticiennes, pourront signer ce qu'on appelle le fameux billet du médecin. Et vous savez, quand vous avez besoin d'un billet, que ce soit pour un employeur, pour un assureur, puis même on inclut dans ce qui sera dorénavant autorisé de pouvoir signer des documents pour le permis de conduire et même dans certains cas de pouvoir intervenir quand quelqu'un représente un danger et donc pouvoir ordonner une garde préventive si l'infirmière pense que l'état mental de cette personne est à risque. Alors, c'est vraiment des pouvoirs accrus. Et la bonne nouvelle, c'est que théoriquement, toujours théoriquement, parce que en santé, on sait jamais comment ça va tomber, mais théoriquement, ça devrait permettre à des médecins d'être dégagés et de pouvoir avoir la responsabilité de plus de patients. Il y a un mais, c'est-à-dire qu'il y a 30 000 $ à peu près par médecin qui pourraient être amputés de leur rémunération. Réponse de la ministre McCann, ben, vous avez juste à avoir plus de monde, puis vous allez trouver l'argent perdu de cette façon-là. Je pense que les infirmières praticiennes, compte tenu de la formation qu'elles sont allées chercher, n'ont pas besoin toujours d'être supervisées par un médecin qui reçoit un montant X, même s'il ne voit pas le patient comme tel à toutes les fois. Puis bon. Là, je regarde les pharmaciens aussi. Puis là, je suis de près l'échange entre la Fédération des médecins spécialistes puis des pharmaciens, où Mme Francoeur dit « Oui, on est tous pour la collaboration, mais là, il faut se méfier, on ne sait jamais, il peut y avoir des dérapes. » Puis on sait bien que les pharmaciens aussi, ben s'ils prescrivent des choses, ils vendent le médicament, tu sais. De leur dire que c'est un conflit d'intérêts. J'ai jamais vu ça. Autant de complexité, de lobby, de gens qui protègent la moindre parcelle de territoire, puis qui font des fois semblant de faire des concessions, alors que dans les faits, ça n'arrive pas. Et le patient dans tout ça. Tu sais, puis là, on veut pas que je paye. Puis là, tu dis, le pharmacien, son honoraire va être payé par qui? Par l'assurance maladie? Par mon assurance privée? Je peux-tu le payer de ma poche? Sans doute pas. Fait qu'on nous annonce des beaux grands principes. Mais concrètement, ça va changer quoi dans ma vie, là? C'est aller à la pharmacie un samedi soir à 8 heures, puis que le pharmacien puisse poser un geste pour améliorer mon état de santé que, depuis des années, il tente d'obtenir, mais c'est tellement compliqué. Puis après ça, on se demande pourquoi il y a encore plein de gens qui passent des heures à attendre dans les salles d'urgence. Alors, sérieusement, là, j'ai comme un doute sur la bonne volonté des parties en cause. T'sais, tout le monde est pour, ah, nous autres, on est pour le travail d'équipe, la collaboration, le pharmacien, l'infirmière, le médecin, tout le monde là, veut travailler ensemble, mais tout le monde protège son lopin de terre aussi et sa juridiction. Et ben ça, tu peux pas faire ça, puis toi, t'as pas la formation, je suis l'expert en patient, t'es qui, toi, t'es un vendeur de pilules. Tu sais, c'est pas mal ça qui se dit des fois dans certains salons. Donc, on aura l'occasion d'y revenir. Puisqu'on parle de santé, je vous disais l'autre jour qu'on a, par la protectrice des citoyens, fait la démonstration qu'à Québec, on crée des programmes et idéalement, on met tellement de bâtons dans les roues, d'obstacles bureaucratiques, que ça devient compliqué d'y avoir accès, que ce soit des crédits d'impôt ou carrément des programmes. Je vous rappelle l'histoire de Béatrice, on a parlé à sa mère, Mme Geneviève Thériault. Et c'est une petite fille qui est lourdement handicapée. Elle a 12 ans, mais elle a de graves problèmes. Et elle a besoin d'aide du gouvernement, d'argent pour ses parents. Puis c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on veut l'envoyer en institution? Est-ce qu'on veut l'envoyer dans une autre famille qui va recevoir plus d'argent? La CAQ avait dit, ça n'arrivera pas. Et là, il faut voir quels sont les critères. Et il manquait un critère pour obtenir le montant que la mère jugeait correct, là, pour ne pas dire essentiel, pour soigner l'enfant. On lui a parlé à deux reprises en ondes. Puis là, on était dans la bureaucratie. Le ministère avait réagi en disant, « Oui, c'est vrai qu'il y a des contestations. On va créer un palier pour en appeler. » Elle, ça fait des mois qu'elle attend, là. Eh bien, bizarrement, elle a reçu une lettre lui confirmant qu'elle avait droit à l'aide demandée avec un montant rétroactif. Mais comprenez-vous, là, à quel point il faut aller se battre contre le système puis contre la machine pour obtenir ce qui nous revient. Parce que le premier réflexe, c'est souvent de dire non puis de laisser traîner. Des fois, si on était de mauvaise foi, on pourrait dire faire en sorte que des gens se tannent puis abandonnent puis oublient. Ils ont des droits, il y a des montants qui ont été prévus pour eux, mais ils doivent se débattre pour essayer d'obtenir ce que le gouvernement annonce avec, évidemment, beaucoup d'emphase. Bon, le procès de Terrebonne, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que élu haut fonctionnaire de la ville était dans un système de partage de contrats entre deux firmes de génie. Et là, c'est pas clair si l'ordre vient de Jean-Marc Robitaille, le maire, ou si ça s'est passé à d'autres niveaux. M. Robitaille est accusé, puis il y en a d'autres également. Mais ce qu'on comprend, c'est que pour la plupart des joueurs, la directive venait, tu comprends, du sommet. Mais c'est qui le sommet? Tu es le DG de la ville? Alors, ça va être à prouver durant le procès qui continue. Puis je vais vous parler aussi ce matin, appelons ça de cybercriminalité. D'abord, il y a eu un paquet d'attaques dans les derniers jours. On peut penser au Cusum. Il y a également Bonjour Santé, le site qui a été attaqué. Est-ce que tout ça est lié? Je ne sais pas. Peut-être pas. Mais disons que ça en fait pas mal. Et on va en parler un peu plus tard avec Jean-Philippe Descaries-Mathieu, qui se pose la question, toutes ces attaques, Hydro-Québec par exemple, la ville de Longueuil aussi qui a été touchée par une panne informatique, est-ce que ça fait partie d'une cyberguerre qui vise des institutions au Québec? Point d'interrogation, bonne question, mais j'ai pas la réponse pour vous ce matin. Puis je regarde les cas, je feuilletais les journaux, puis il y a un paquet de cas de fraudeurs. Puis peut-être, allons du fraudeur traditionnel, là, qui est dans le Journal de Montréal, un gars de 33 ans, qui est un spécialiste de la location de maisons luxueuses, puis il paye pas, puis il se fait expulser, puis c'est un gars qui a des antécédents judiciaires, et il a été condamné à rembourser 150 000, il a réussi à aller s'acheter une voiture, fait croire qu'il avait de l'argent. Autrement dit, c'est le beau parleur qui finit par séduire, puis les gens sont prêts à y donner... tout ce qu'il veut. Puis là, après ça, ben là, on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas de maudite scène puis qu'il paye pas son loyer. Ça, c'est un cas classique. Tu sais, de vieille fraude, finalement. En passant, il y a, selon les dernières informations, 37 000 comptes de TransUnion. Ça, c'est une des firmes recommandées par Desjardins pour protéger notre identité. Hein? Pour être sûr que si jamais quelqu'un essaie de prendre notre identité, on soit protégé. Ben, eux-mêmes se sont fait hacker par une entreprise. Pirates. 37 000 comptes à travers le Canada. Dans la Gazette ce matin, il y a quelqu'un qui est accusé dans une attaque où on est allé chercher des infos sur 100 000 clients de Bell. Le gars est un jeune homme de 25 ans, résident de Verdun. Il a comparu devant le juge. Et là, on l'a remis en liberté parce que avec une série de conditions, puis théoriquement, il peut pas toucher un ordinateur. T'en as un autre voleur d'identité, lui. Il a organisé une fraude de 600 000. C'est quand même pas rien. Et tout ça pour vous dire que les partis politiques en parlent pas beaucoup durant la campagne. Et je sais que vous êtes très préoccupés de ça. T'sais, encore hier, je recevais des courriels d'auditeurs, d'auditrices qui me disent « Monsieur Arcan, c'est-tu normal de recevoir tel type de courriel? » La réponse est non. C'est normal d'avoir tel type d'appel? La réponse est non. Et ça prend un faible pourcentage de gens pour que ça soit payant, enfin des gens qui donnent de l'info personnelle ou qui tombent dans la trappe pour que ce soit très lucratif pour ces fraudeurs. On va revenir aussi ce matin sur l'attaque antisémite contre une synagogue, également un restaurant turc en Allemagne et s'inspirant du cas de Nouvelle-Zélande, le tireur a été appréhendé et il se filmait en direct au moment de commettre ces agressions. Et l'armée turque aussi qui a bombardé plusieurs localités du nord-est de la Syrie mercredi avant de lancer une opération terrestre. Au moins 15 morts, des milliers de personnes ont été déplacées. Et le président Trump, qui a annoncé le retrait des troupes américaines, semble pas tellement préoccupé. Il trouve que c'est pas une bonne idée, mais pas plus que ça. Alors que, vous rappelez que les Kurdes ont quand même participé à la lutte contre l'État islamique. Mais ça semble pas, à part quelques phrases où on dit au président Erdogan, vous devriez pas faire ça. Lui, il s'en fout, puis il a décidé qu'il partait régler le cas des Kurdes. 6h23 minutes. Allons-y avec le pont Champlain.